tous et nous sommes, pour ceux qui nous visitent pour la première fois, dans une étude qui s'échelonne sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, sur la vie de David. David, j'ai intitulé la série « Un cœur qui bat pour Dieu ». C'est un cœur qui bat pour Dieu parce que c'est un cœur qui a été saisi par Dieu, pour commencer. Hein? On n'élève pas David en étant comme un super-héros ou quoi que ce soit, là, c'est parce qu'il répond à la grâce de Dieu. Il a répondu à une révélation de Dieu. On a vu dans le psaume 23, hein? C'est vrai, j'ai oublié de mettre le psaume 23. Mais je pense que vous l'avez tous pas mal appris par cœur. Là. En tout cas, peut-être la semaine prochaine, je vais revenir avec ça. Est-ce que vous avez déjà vécu une situation où ce que vous prévoyez passer une belle journée et puis que ça tourne au désastre? Ça, c'est vraiment tannant, ça, hein? Moi, je me rappelle quand j'étais tout petit, on avait été, je pense que c'était le lac Memphrémagog, dans le coin de Sherbrooke, là, avec mes parents à la plage, puis il faisait beau soleil, on s'apprête à se baigner, tout ça, et tout à coup, c'est le drame, parce qu'il y a un enfant qui s'est noyé. Oh! Là, c'est la panique, la catastrophe, la détresse. Ça tourne vraiment au cauchemar, puis c'est vraiment un choc, hein? Un choc émotionnel. Mais ce matin, on va lire dans la vie de David une journée qui tourne aux catastrophes. Une fête, en fait, qui tourne aux catastrophes. Si vous voulez tourner avec moi, dans 2 Samuel... Et on est au chapitre 6. On va attendre pour ça. 2 Samuel, chapitre 6. Verset 1. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baalé-Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uzza et Akjo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uzza marchait à côté de l'arche de Dieu et Akjo allait devant l'arche. OK, verset 5. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments, de bois, de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de Nakon, Uzza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uzza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uzza mourut là, près de l'arche de Dieu. Une fête qui tourne au cauchemar. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour le privilège qu'on a, Seigneur, d'avoir ta parole entre nos mains. Devant ta majesté divine, Seigneur, on veut se courber ce matin, Dieu de lumière, et te demander d'éclairer notre esprit, d'illuminer les yeux de notre cœur par ta parole et ton esprit, qu'on puisse te connaître davantage, Seigneur, intimement, t'aimer et te servir. Chasse toute obscurité. Chasse toute autre voix que la tienne, Seigneur. L'Éternel est dans son Saint-Temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. Pour la gloire de Jésus. Amen. Alors, une fête qui tourne au cauchemar. Ce qu'on va voir ce matin, c'est ceci. C'est un cœur qui bat pour Dieu, apprend à le révérer pour sa sainteté et à l'adorer pour le sacrifice de Jésus. David tente de faire une bonne chose. Il désire apporter l'arche de l'Alliance qui représente la présence de Dieu au milieu de son peuple. L'arche avait été plusieurs années, peut-être plus d'une trentaine d'années, dans la maison d'un certain Abinadab à Baalé-Juda, qui est Kiriath-Jéharam ou Jéharam pour les adeptes. Qu'est-ce que l'arche faisait là? C'est que les Philistins, les ennemis, avaient remporté une grande victoire contre les Israélites plus de 30 ans avant, et ils avaient capturé l'arche. Vous vous rappelez? Et c'est là que, devant la défaite cuisante qui avait précipité la capture de cette arche-là, que le prêtre Élie est tombé raide mort. Hein? Il a eu un coup au cœur en apprenant que l'arche avait été capturée. Et là, les Philistins, éventuellement, ils l'ont renvoyé à Juda parce que Dieu les frappait de toutes sortes de pestes. Et David avait appris que Dieu a béni la maison d'Abinadab. Abinadab devait être un lévite ou un prêtre pour pouvoir accueillir l'arche chez lui. Et là, David désire rapatrier à Jérusalem l'arche qui représente la présence de Dieu. C'est une action tout à fait louable, pas vrai? David et toute la communauté sont dans la joie, jouant toutes sortes d'instruments. C'est la fête, quoi. Mais tout à coup, la musique cesse. Les chants arrêtent abruptement. Un drame vient d'arriver. Ouza est frappé et tomberait de mort. Pourquoi? Parce qu'il avait étendu sa main pour stabiliser l'arche car elle penchait dangereusement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Imaginez-vous la stupeur de David et des gens devant une telle tragédie. La belle fête est transformée en tragédie. On assiste à une scène de drame. Comment comprendre ça? David est d'abord troublé, si vous regardez dans vos Bibles. Dépendamment des versions, on emploie différents termes. Troublé, dans le second 21, irrité, dans le Louis II, en colère, dans certaines versions anglaises, que l'Éternel avait frappé Ouza. La colère. Hein, dans les semaines précédentes, on a vu que la colère, c'est quoi? Une réponse à une injustice perçue ou réelle. C'est-à-dire que c'est vrai ou tu le perçois de même, mais ce n'est pas vrai. Mais tu réagis. La colère t'indique que tu réagis à quelque chose, à une injustice. Donc, David, est-ce qu'on peut le blâmer? Est-ce que David perçoit ici une certaine injustice? J'imagine là, David dire au Seigneur, « Seigneur, on essayait de t'honorer, on transportait ton arche au centre de la capitale, on faisait une bonne chose, on voulait te glorifier, tout le monde est en fête, et boum, tu frappes Ouza. » Pourquoi? Pour avoir posé un geste bienveillant, essayer d'empêcher l'arche de tomber. Pourquoi, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe? Ça se peut pas. Hein? Êtes-vous choqué devant cet événement-là? Oui, hein? À chaque fois, ça nous choque, je pense. David ne comprend pas. Et par la suite, qu'est-ce qui arrive? David a peur. David a peur. C'est marqué au verset 9, « David eut peur de l'Éternel en ce jour-là et dit, « Comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? » David prend peur, c'est la sorte de peur qui nous prend lorsqu'on n'était pas conscient d'un danger, puis on se fait ramasser. Par exemple, les coureurs de vélo, il y en a qui aiment le Tour de France ici, là, qui écoutent le Tour de France. Vous êtes rares. Mais c'est tout que des coureurs, hein? C'est tout que des athlètes. Mais des fois, en descendant, ils peuvent rouler jusqu'à 100 km/h. Puis le pneu, vous savez, est mince comme ça. Si la chaussée est mouillée un petit peu ou il passe sur une ligne peinturée ou quelque chose, ça peut déraper. Il y a un des meilleurs coureurs au monde actuellement, Jonas Vingegaard, il a gagné le Tour 2 fois. Mais il y a 2 ans, il a fait une chute terrible, des côtes cassées, les vertèbres fêlées, commotion cérébrale. Et puis, l'année d'après, c'était plus le même coureur, il avait peur en descendant. Puis il a perdu le Tour de France probablement à cause de ça. C'est la sorte de peur qui nous assaille quand on n'était pas conscient de la gravité du danger et que ça nous rattrape. Comme mon ami Régent qui a voulu un jour monter le mont Everest. Et puis, vous savez que c'est une préparation sur plusieurs mois. Hein? Et puis, l'escalade se fait par plusieurs étapes. Puis dans cette escalade-là, à un moment donné, il y a une partie que c'est une chute de glace. C'est des gros blocs de glace. Et puis, c'est vraiment, vraiment dangereux pour les avalanches. Et lui, il s'est fait presque ramasser par une avalanche. Le guide qui l'accompagnait, il dit « vite », il l'a pogné. Ils se sont mis à l'abri d'une roche comme ça. Et il a manqué mourir. Il y a des gens qui sont morts sur l'expédition. Est-ce qu'il a voulu retourner? Non. Il n'a pas voulu retourner. Si on revient justement avec le mont Everest, force est d'admettre qu'il y a des absolus à respecter. On ne peut pas se lancer à l'ascension de l'Everest comme bon nous semble. Hein? Il y a des principes à respecter si on veut et si on ne veut pas y laisser notre peau. Il y a des limites à braver la nature. Il y a des limites telles que le niveau très bas d'oxygène, le froid intense, les vents violents, les tempêtes imprévisibles qui réduisent la visibilité à nul. Il y a plusieurs gens qui sont morts juste parce qu'ils ne voyaient plus, puis ils se sont égarés, puis ils se sont perdus dans la tempête, puis sont morts sur Everest. Juste à cause de la visibilité. Imaginez. Donc, il y a des. Pour ne pas parler des avalanches en plus. Fait que c'est pas nous qui décidons, c'est la montagne qui décide. Et c'est comme ça avec Dieu, les amis. C'est une illustration de la personne de Dieu. Nous ne faisons pas ce que nous voulons avec Dieu. Il y a des incontournables. Un autre exemple, c'est l'électricité. Hein? L'électricité, c'est une bonne chose. Qui voudrait retourner à l'époque où il n'y avait pas d'électricité dans nos maisons? Pense pas, hein? C'est une bonne chose, on est content. Mais est-ce que l'électricité est sécuritaire? Ben, c'est ça, pas toujours, hein? Ça dépend. On a tous dans notre tête, je pense, le pauvre type qui accote son échelle sur un fil par mégarde. J'espère que tu as fait attention, mon frère. Ou des gens à Montgolfière qui accrochent une ligne à haute tension au passage. Hein? L'électricité est bonne, mais elle peut aussi devenir mortelle si on ne la respecte pas. Puis, c'est comme ça, les amis, avec Dieu. Il y a des incontournables. Il y a des non négociables. Et une de celles-ci, c'est sa sainteté. Sa sainteté. Dieu ne fera aucun compromis avec sa sainteté. La sainteté de Dieu, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. J'espère que vous saisissez que c'est une bonne chose que Dieu soit saint. Parce que la sainteté, c'est à la base de sa justice. Et si Dieu n'est pas juste, ben, il n'y a rien qui marche dans le monde. C'est l'anarchie. Et on ne peut pas se fier à un Dieu comme ça. Fait que la sainteté de Dieu, c'est une bonne chose. Elle est une caractéristique ou une perfection intégrante de la nature de Dieu. Mais elle n'est certainement pas sans danger pour les êtres humains mortels et pécheurs. Qui ose la braver, y laissera sa peau et son âme. Mais c'est quoi la sainteté de Dieu? Comment la décrire? Comment la comprendre? Je vais vous parler de la grandeur et de la portée de la sainteté de Dieu. Comme je peux, parce que, écoutez, c'est difficile pour quelqu'un de comprendre c'est quoi le mont Everest sans y avoir été. Hein? Puis, c'est la même chose pour nous. Dieu est tellement grand, tellement immense, tellement 3x5 que... Je ne peux pas prétendre ce matin pouvoir vous le décrire adéquatement. Mais On va essayer de notre mieux. D'abord, la grandeur. Le mot saint dans l'hébreu, il y a deux mots. Il y a kadosh, c'est un adjectif qui veut dire mis à part. Et ce mot-là, cet adjectif-là, est employé pour les lieux, comme le sanctuaire. C'est un lieu saint, mis à part. C'est employé pour les sacrifices. Les sacrifices sont saints, sont mis à part. Les offrandes. Le peuple d'Israël aussi est appelé un peuple saint, mis à part. Mis à part de quoi? Bien, mis à part du péché. C'est comme l'illustration d'une vase ou d'une coupe qui est sale, qu'on lave, on la nettoie et on la met à part sur la table pour un invité, par exemple. Bien, cette coupe-là, elle est sanctifiée. Elle est lavée et elle est mise à part de la saleté pour servir à quelque chose. Ce nom, et parfois Dieu lui-même est appelé saint, ce nom met l'accent sur le fait que Dieu est totalement exempt de toute imperfection et souligne sa pureté insondable, nous dit le dictionnaire des mots bibliques. Son équivalent, Kodesh, là, on a Kadosh. Kodesh, c'est le nom. Alors, l'autre, c'est l'adjectif. Le nom qui signifie également mis à part et qui est également souvent employé comme un adjectif. Bon, c'est comme notre terme bon. Hein? Des fois, on utilise le terme bon comme un adjectif. Les bleuets sont bons cette année. Ou on peut dire qu'il y a du bon, il y a du moins bon et il y a du mauvais. Donc là, c'est un nom, le bon. Hein? Dieu est appelé le saint d'Israël. Donc, il y a des choses saintes, c'est-à-dire consacrées à Dieu sur la terre, comme le temple, comme les offrandes, comme le peuple, etc. Mais Dieu lui-même est à un autre niveau de sainteté. Il est appelé le trois fois saint à cause du texte dans Ésaïe 6:3 où Ésaïe voit les séraphins autour de Dieu proclamer « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Également, c'est repris dans Apocalypse 4:8, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient ». La sainteté de Dieu signifie qu'il est séparé du péché et qu'il se consacre à la recherche de sa propre gloire, nous dit Grudem dans sa théologie systématique. MacArthur nous dit « La sainteté de Dieu est sa grandeur inhérente et absolue qui le met parfaitement à part et au-dessus de tout ce qui est extérieur à lui-même et le sépare absolument du péché sur le plan moral. » Dieu résiste à tout compromis de son caractère. Il se différencie de façon transcendante de toutes ses créatures par sa majesté infinie. Il est distinct de tout ce qui est à l'extérieur de lui-même. Il est évidemment séparé du péché puisqu'il est moralement et éthiquement parfait. Il se différencie de façon transcendante. Le mot transcendant, ça veut dire qu'il dépasse. Ça vient du latin transcendare. Ça veut dire dépasser. Dieu dépasse tout ce qu'on peut être ou imaginer. Et c'est un autre niveau. C'est un autre niveau de sainteté. Donc, là, je vous donne une couple d'illustrations, mais toute illustration est imparfaite parce que Dieu est tellement infiniment transcendant, plus gros que ça. Mais imaginez que vous avez une lampe de poche d'ail puissante, vous la regardez, et ça fait mal aux yeux. Oui, mais à côté de la lumière du soleil, c'est rien, il n'y a pas de comparaison. Essayez pas de regarder le soleil en direct plus qu'une minute, puis vous allez vous brûler les cellules de votre rétine. J'en ai vu de ça personnellement. La chaleur du soleil aussi, on peut avoir une idée de c'est quoi la chaleur au Québec. On aime ça, la chaleur. Mais il n'y a aucune comparaison avec la chaleur de la surface du soleil. Va toucher le soleil et tu seras vaporisé en moins d'une nanoseconde. Une nanoseconde, c'est 1 million, un millier d'une milliseconde, qui est un millier d'une seconde. Une nanoseconde est vaporisée. Et ce sont là des comparaisons faibles, mes amis, pour tenter de nous comprendre la différence entre notre sainteté qu'on peut avoir et la sainteté de Dieu. Sa sainteté est transcendante. Elle dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Toute comparaison faillit. Et pourquoi il est tellement au-dessus de nous? Bien, c'est dans sa nature. Mais la Bible nous dit aussi que nous sommes, en tant qu'êtres humains, entachés du péché. C'est quoi le péché? C'est qu'on a un problème du cœur. Nous agissons les uns envers les autres de façon honteuse. Ça veut dire qu'on n'agit pas comme on devrait agir, les uns avec les autres. Pire encore, on agit de façon honteuse envers le Créateur de l'univers. On n'agit pas envers lui comme on devrait agir non plus. La Bible dit qu'on devrait aimer Dieu de tout notre cœur, notre âme, notre force. Qui a déjà fait ça, ne serait-ce qu'une nanoseconde? Pas moi. La Bible dit que nous sommes tous révoltés contre Dieu, notre Créateur qui nous aime. Et la Bible appelle cette rébellion-là le péché. La rébellion, c'est Dieu, viens pas me dire comment mener ma vie. Moi, je veux mener ma vie telle que je l'entends. Ça, c'est l'essence du péché. Ça n'a pas l'air si terrible que ça, hein? Va mener ta vie. Puis c'est le message qu'on entend dans la société aujourd'hui. Fais ce que tu veux. Sois qui tu veux. Tu peux être n'importe quoi. Tu peux être n'importe qui. Ça semble correct. Ça semble bien, hein? Sauf que Dieu n'est pas dans le portrait. L'être humain décide pour lui-même, en faisant fi de la personne, du caractère et des instructions de Dieu. Et ça, la Bible dit que c'est de la rébellion. Vous ne pensiez pas rebelle, hein? Mais la Bible dit que nous sommes tous rebelles. Nous avons tous un cœur de rockeur, comme la chant dit. Un cœur de rockeur. Et on pense que la rébellion, c'est la liberté. Vous remarquerez dans les films, dans les chansons, là, souvent ils confondent la rébellion à la liberté. La rébellion, je me défais de toutes les contraintes, de toutes les exigences, de toutes les limites que n'importe qui peut que mettre, puis je vais faire ce que je veux, moi. C'est la rébellion. Est-ce que ça mène à la liberté? Non, ça mène pas à la liberté. Mes amis, ça ne mène pas à la liberté. Ça t'amène à devenir esclave de tes propres passions. Oui, c'est ça que la Bible dit. La rébellion, ce n'est pas la liberté. C'est comme un poisson qui décide, moi là, je ne veux plus être un poisson, là, je veux être libre de l'eau, je suis tanné de vivre dans l'eau, je vais sortir de l'eau, puis je vais faire ma vie sur terre. Qu'est-ce qui va arriver? Il va mourir. Il va devenir captif de la terre, il ne sera plus capable de rien faire. Et la liberté, ça serait quoi dans le fond? Ce serait de prendre le poisson puis de le remettre à l'eau. On retrouve notre liberté lorsqu'on reconnecte avec notre Créateur. C'est là qu'on trouve la liberté. Êtes-vous convaincu de ça? Maintenant, la grandeur de la sainteté. La portée, ça veut dire quoi? C'est quoi l'importance pour nous, là? C'est les humains. Qu'est-ce que ça veut dire, la sainteté de Dieu? Là, on a regardé sa grandeur, on va regarder l'importance, sa portée. C'est que la sainteté de Dieu est un incontournable pour être en relation avec lui. C'est ça l'affaire. Sa sainteté, c'est un incontournable pour être en relation avec lui. On revient à l'épisode d'Ouza. Pourquoi est-il mort? Il a touché l'arche de l'Alliance qui représentait la présence du Dieu trois fois saint. Mais là, quand je lis ça, je me pose la question, puis probablement vous vous posez la question aussi, mais où la grâce de Dieu? La semaine passée, je vous ai dit que Dieu est un Dieu de grâce. Il a toujours une disposition favorable. C'est ça que ça veut dire, la grâce. C'est faveur non méritée. C'est pas juste une action, c'est une disposition de cœur. Et où la grâce? Et où la grâce là-dedans? J'en vois pas. En vois-tu? Et Brian, tu nous as dit que Dieu était gracieux, non? Ça heurte, hein? Ça heurte. Comment expliquer qu'il terrasse un homme qui tentait de faire quelque chose de bien en plus, là? Bon. Il faut comprendre, chers amis, en partant, que tous les attributs ou perfections de Dieu, qu'on les appelle, font partie intégrante de sa personne. Elles ne sont pas à l'extérieur de sa personne, comme la grâce, l'amour, la sainteté, la justice, la miséricorde, tout ça, c'est intégré. Sont toutes présentes en même temps et toutes en parfait équilibre en Dieu. C'est pas comme si Dieu se lève un matin et dit « Ah, j'ai envie d'être gentil ce matin. » Ou « Ah, je me sens plutôt saint aujourd'hui. » et sortirait un de ses attributs pour l'exercer comme on sortirait un chien pour le faire marcher dans le parc. Non. Dieu est toujours parfaitement saint et parfaitement amour et parfaitement compatissant et parfaitement juste, etc., etc., etc. Toujours, toujours. C'est nous, les humains, qui sommes changeants. Et c'est pour cela qu'on expérimente différents aspects de son caractère dépendamment de comment on se positionne face à Dieu. Comprenez-vous? C'est nous. C'est pas lui. C'est nous. Je vais vous le prouver, là. Imaginez que vous voulez prendre cette belle méduse, si vous voulez l'étudier. C'est incroyable. C'est une créature formidable. Puis vous voulez l'examiner, puis apprendre à le connaître. Mais c'est une méduse qui est extrêmement belle, mais extrêmement vénéneuse aussi. Juste toucher, tu peux mourir. Tu mettrais sûrement des gants de caoutchouc jusqu'au coude après avoir enfilé une combinaison en caoutchouc également, pas vrai? Si un biologiste expert était à côté de toi, te voyait commencer à vouloir prendre la créature avec des mains nues sans rien dire. Ce serait vraiment de manquer de bonté, pas vrai? Voire méchant, pas vrai? Si vous avertissez pas. Mais s'il t'avertit, ben c'est une grâce, c'est une bonté. Hein? Voyez-vous, Dieu exige la sainteté parfaite pour être en sa présence. Il ne fera aucun compromis avec sa sainteté. Nous ne pouvons absolument pas nous approcher de Dieu dans notre état naturel puisque nous sommes entachés de péché et que s'approcher de Dieu, c'est comme s'approcher du soleil ou s'approcher de quelque chose qui est dangereux comme un fil d'eau de tension ou comme une méduse vénéneuse. C'est notre péché qui nous met en danger, que nous le réalisons ou non. Dans le jardin d'Éden, là, Adam et Ève, tu l'as pensé, hein? Et ils étaient en présence de Dieu. Est-ce qu'ils ont été vaporisés ou frappés à mort? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de péché. Qu'est-ce qui a changé? C'est Dieu ou c'est nous? Dieu doit nous fournir une façon, ouvrir une voie pour nous permettre de nous approcher de lui. Et on va voir comment il fait ça. Mais on revient à la situation d'Ouza. Tournez avec moi dans 1 Chronique. C'est un petit peu plus loin, 1 Chronique. Donc, on passe 2 Samuel, 1 Roi, 2 Rois, 1 Chronique 15. Chronique, c'est aussi l'histoire du peuple d'Israël, du peuple de Juda plus précisément, mais écrit plusieurs centaines d'années plus tard. Okay? Mais il y a des détails là-dedans qu'on ne trouve pas dans 2 Samuel. Alors, 1 Chronique, chapitre 15, verset 11. David appela les sacrificateurs Tsadok et Abiathar et les Lévites Uriel, Asaïa, Joël, Shemaïa, Elial, Aminadab. Il leur dit, Vous êtes les chefs de famille des Lévites. Sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparée l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Regardez ce qu'il dit. Parce que vous n'étiez pas là la première fois, l'Éternel, notre Dieu, nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. C'est 3 mois plus tard, on lit ça dans 1 Samuel, c'est 3 mois plus tard. David, il a eu le temps d'avaler là, le mouton, puis de réfléchir, puis de trouver conseil, puis il a réalisé une chose. Messieurs, on n'a pas suivi les instructions que Dieu nous avait données pour comment approcher l'arche. Qu'est-ce que Dieu avait donné comme instruction? Si on revient. Dans l'arche, il y avait des anneaux aux 4 coins pour poser 2 barres en bois d'acacia recouvert d'or. Pourquoi? Pour que les prêtres puissent porter l'arche sur leurs épaules par les barres et ne pas toucher à l'arche. Donc, c'est comme le biologiste qui dit, prends pas la méduse avec tes mains nues, là. Mets-toi des gants caoutchouc. Comprenez-vous? La bonté, la grâce de Dieu, elle est là. Les instructions que Dieu a données avant étaient pour les protéger de sa sainteté, étant donné leur état pécheur. S'ils ne sont pas pécheurs, il n'y a pas de danger. Comprenez-vous? Il faut avoir une nouvelle nature pour approcher Dieu. C'est comme certaines anémones, est-ce que je dis correctement? Anémones dans l'océan qui sont vénéneuses. Mais un poisson, le poisson clown, il peut y aller, lui. Il n'y a pas de danger pour lui.
Il se rit dedans.
Il se rit. Merci, Robert. Il rit du danger. C'est un clown. Dieu avait en effet donné les instructions précises pour transporter l'arche afin que les Lévites et les autres ne soient pas en danger. Dieu avait été bon, bienveillant en donnant ces instructions-là. C'est eux qui n'ont pas suivi les consignes. On voit le même principe dans la vie de Moïse et du peuple de Dieu en Exode, hein, lorsqu'il arrive au mont Sinaï, puis là, Dieu, il dit, « OK, Moïse, viens, tu vas me rencontrer, mais mets une clôture là, à la base de la montagne. » Pourquoi? Il n'y a personne qui doit approcher, monter la montagne, ni toucher la montagne, parce qu'ils vont être frappés de mort. Il met une protection, il avertit. C'est là qu'on voit sa bonté, sa grâce. C'est comme si tu voudrais escalader le Mont Everest, mais tu fais fi de toutes les instructions que le guide te donne et tu y vas, comme bon te semble. Si tu y laisses ta peau, c'est la faute de qui? Il y en a chaque année qui font fi, ne serait-ce que de juste une instruction, puis ça leur devient mortel sur le Mont Everest. Alors, comment on peut arriver, nous, à être en lien avec un Dieu saint, 3 fois saint, alors qu'on est pécheur? Comment s'approcher d'un tel Dieu? Sous l'ancienne alliance, la seule personne qui pouvait s'approcher de Dieu dans le lieu très saint du temple, du tabernacle, c'était le souverain sacrificateur, le prêtre en chef, descendant direct d'Aaron, qui était désigné par Dieu pour entrer combien de fois par année? Une seule fois. Hey, pensez-y, là. Je vais permettre à un individu, une seule fois, de venir dans ma présence, une fois par année. Et le prêtre en chef, il devait apporter avec lui le sang d'un sacrifice, premièrement pour les péchés du peuple et pour ses propres péchés, et asperger l'arche de l'Alliance avec le sang du sacrifice. Et c'est là que l'arche de l'Alliance s'appelle aussi le propitiatoire, parce qu'en faisant ça, ça rendait Dieu propice à bénir son peuple. Ça enlevait l'obstacle pour que Dieu puisse bénir son peuple. Donc, ça le rendait propice. Dieu veut exercer sa bonté. Dieu veut exercer sa grâce. Et on peut dire que Dieu préfère même exercer sa grâce que son jugement. Pourquoi? On peut dire ça à cause de Jésus. À cause de Jésus. Il y avait dans ce tabernacle, dans le temps de rencontre dans le désert et plus tard dans le temple de Jérusalem, il y avait ce rideau épais qui séparait le temple en deux, le lieu saint du lieu très saint derrière le rideau. Ce rideau-là, les amis, mesurait 10 cm d'épais, 4 pouces d'épais, était tressé et plus de 60 pieds de haut, 18 mètres de haut. Imaginez-vous le poids de ça. Qu'est-ce qui s'est passé à la mort de Jésus? Au moment du mort de Jésus, à l'intérieur du temple, Jésus était à l'extérieur de la ville, à l'intérieur du temple, le voile s'est déchiré de haut en bas. William en a mentionné ce matin. Un voile de 4 pouces d'épais, déchiré de haut en bas. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est arrivé avec une épée du bas puis qui a essayé de couper ça, là. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que par la mort de Jésus, Dieu s'est pourvu un sacrifice parfait pour enlever tous nos péchés et ouvrir la voie pour entrer directement en sa présence. Imaginez, là, on va d'une situation où il y a une personne qui rentre une fois par année à il n'y a plus de voile. C'est accès illimité. Mais l'accès est illimité pour ceux qui prennent Jésus comme leur sacrifice, qui s'approprient le sang de Jésus-Christ. Voyez-vous, Dieu a frappé Jésus comme il a frappé Uzza. Pourquoi Dieu a frappé Jésus? Il l'a frappé à ta place. Il l'a frappé à ta place. Parce que Jésus a pris tes péchés sur lui et il a accepté que Dieu le frappe à ta place. Et c'est pour ça que Dieu a déchiré le voile. Beaucoup de gens s'imaginent que la grâce, là, écoutez, ça c'est très important, les amis. Beaucoup de gens s'imaginent que la grâce, c'est un genre de compromis que Dieu fait pour arriver à nous laisser entrer en sa présence. C'est genre, Dieu, il va oublier. Tu sais, les gens disent ça, je vais m'arranger avec Dieu. Dieu, il est bon. Tu sais, c'est comme si Dieu dit, mon petit gars, tu as fait des choses pas correctes, mais bon, on va oublier ça parce que je suis bon. C'est pas ça la grâce. Non. C'est pas ça la grâce. La grâce, ce n'est pas non plus que Dieu excuse tes péchés sur la base que tu es un simple humain imparfait. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça, hein? Dieu va comprendre. Dieu va comprendre. Je suis pas parfait. Il n'y a personne de parfait. Dieu va dire, mon petit gars, tu as fait des choses pas correctes, là, mais je comprends. Regarde, tu es un pauvre petit... bête. Beau petit être humain, là. Ah, je vais t'excuser. Non, c'est pas ça la grâce. Parce que dans un cas comme dans l'autre, Dieu fait un compromis avec sa sainteté et Dieu ne compromet pas sa sainteté. La grâce, ce n'est pas non plus la clémence. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la grâce, c'est la clémence. Qu'est-ce que c'est la clémence? Ça veut dire, on va y aller doucement. Tu sais, OK, tu as fait des choses mauvaises, tu mérites là, tu mérites là, vraiment là. Mais je vais être clément avec toi, je vais y aller doucement. On ne punira pas comme tu devrais être puni. C'est pas ça la grâce non plus. Non, la grâce, c'est que Dieu dit, tu as péché, tu es rebelle, tu mérites mon jugement, tu mérites d'être banni de ma présence pour le reste de l'éternité, dans les noirceurs, dans les ténèbres, où les gens claquent des dents et grincent et crient pour toute l'éternité. C'est ça que tu mérites, mon petit gars, ma petite fille. Mais je t'aime tellement, là, que garde mon fils, là, il va aller prendre ton jugement sur la croix. mon fils Jésus. Lui, là, je l'ai frappé pour toi. Et si tu l'acceptes, je te donne le choix. Si tu l'acceptes comme ton sauveur et ton Seigneur, il y a un accès illimité à ma personne. Il n'y a plus de danger. Il n'y a plus de danger. La grâce est une attitude de faveur absolue, non méritée, un accès illimité, un accueil infini, mais qui a coûté la vie à Jésus. Jésus a subi la juste colère contre tes péchés, les miens. Vois-tu que la croix démontre à la fois l'amour de Dieu et la justice de Dieu? L'amour parce que Jésus prend ta place et la justice parce que Dieu le frappe à ta place. Donc Dieu, comme Paul dit dans Romains, il satisfait à la fois sa justice et sa bonté. Les deux sont satisfaits à la croix. Il y a juste à la croix que ces deux choses-là sont satisfaites. Il y a juste à la croix. Cette grâce, cette disposition favorable, elle ne peut être accessible à moins que tu te reconnaisses pécheur, méritant le juste jugement de Dieu, que tu cesses de faire des excuses pour tes péchés, pour ta rébellion contre Dieu. Il y a quelqu'un cette semaine qui m'a dit, je comprends maintenant. Il faut que j'arrête de faire des excuses pour mes péchés. Wow. C'est ça. Ta rébellion contre Dieu, que tu acceptes Jésus soit mort à ta place à la croix, il est le seul qui peut t'offrir cette relation d'amour avec Dieu. Hébreux 10, 19 à 22, et après ça on va prendre une pause pour le pas du Seigneur. Hébreux 10, si vous voulez tourner, sinon faites juste écouter. Hébreux 10, 19 à 22. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée ou ouverte pour nous à travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'un eau pure. Une autre version dit, « Mes frères, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous en a ouvert le chemin nouveau et vivant à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire son propre corps. » Puis si vous regardez dans deux chapitres plus loin, Hébreux chapitre 12, au verset 18, on lit ceci. « Car vous ne vous êtes pas approchés comme les Israélites au désert d'une réalité qu'on pourrait toucher, un feu qui brûlait, des sombres nuées, des ténèbres, un ouragan. Vous n'avez pas entendu des sonneries de trompettes ni l'éclat d'une voix telle que ceux qui l'ont entendu ont demandé qu'elle ne s'adresse plus à eux. De quoi ils parlent? Ils parlent de justement, tantôt j'ai fait référence au mont Saint-Sinaï, là. Quand Dieu est descendu, qu'il a manifesté sa présence sur la montagne, là, c'est ça qui est arrivé. Si vous allez lire, là, c'est des ténèbres, c'est des coups de tonnerre, c'est les tremblements de terre, c'est des voix fortes. Le son d'une trompette qui allait de plus en plus fortement, c'était une scène terrifiante. Et ceux qui l'ont entendu ont demandé qu'elle ne s'adresse plus à eux. Même Moïse a eu peur. Non, il dit, vous, parce que ça, c'était la montagne de la présence de Dieu trois fois saint. Et s'il touchait à la montagne, c'est la mort. Mais il dit, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. C'est une autre montagne. C'est une montagne céleste. C'est une montagne de Dieu c'est pas sur la terre. De la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, avec ses, ah, j'aime tellement ça, ses milliers d'anges en fête. Wow. Vous, mais regarde ma sœur, il dit que tu es déjà là. Vous, vous êtes approchés de l'assemblée des fils premier-nés de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, premier-né? Ça veut dire héritier, OK? Parce que le premier-né, il était l'héritier dans ces temps-là. C'est ça que ça veut dire. On pourrait dire, vous, vous êtes approchés des fils héritiers de Dieu, les enfants héritiers de Dieu, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous, vous êtes approchés de Dieu, le juste juge de tous les hommes. Oh, ça peut faire peur. Non, mais regardez. Et des esprits des justes parvenus à la perfection. Fait que tu as pu avoir peur de t'approcher de ce Dieu juste-là parce que ton esprit est rendu juste et rendu parfait à cause du sang de Christ. Regardez comment je peux dire ça. Bien, on le voit dans la suite. Vous, vous êtes approchés de qui? De Jésus, le médiateur d'une nouvelle alliance et du sang, de son sang répandu, qui parle mieux encore que celui d'Abel. Qu'est-ce que ça veut dire? Le sang d'Abel, Abel a été tué par son frère, hein? Puis Dieu dit, son sang là, hé hey, Caïn, viens ici une minute. Le sang d'Abel crie vers moi là, je l'entends. Qu'est-ce que ça criait? Injustice. Ouais, justice. Vengeance. Mais là, le sang de Jésus, ça crie quoi? Pardonne. Fait que c'est pour ça qu'il dit, on peut s'approcher du Dieu juste, le Dieu juste juge de tous les hommes. Et des esprits justes qui sont parvenus à la perfection. Ils ne sont pas parvenus là en se forçant, en étant des bonnes petites personnes. Non, c'est parce qu'ils ont accepté la sainteté que Jésus leur offrait. Jésus prend tes péchés et il dépose sa sainteté à ton compte. Et Dieu te déclare saint. Là, après ça, il faut que tu apprennes à vivre comme un saint. Mais Dieu te voit déjà comme un saint. On va s'arrêter ici pour le repas du Seigneur. Est-ce qu'on a le chant « Quand j'ai vu tes mains »?